Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Aujourd'hui, 9 septembre 1976, il y a 30 ans, la mort de Mao.
Zéro heure 10, ce matin, à Pékin. Cette voix enregistrée lors des derniers congrès du Parti communiste chinois vient de s'éteindre. Avec la mort de Mao Tse-tung, disparaît celui que tous les hommes politiques de notre époque s'accordent à reconnaître comme l'une des plus grandes figures de l'histoire contemporaine.
D'histoire. Quand il est mort il y a 30 ans, Mao vivait loin de la cité interdite, reclus dans une maison étroitement surveillée, équipée des moyens de sécurité les plus perfectionnés et à l'épreuve des tremblements de terre. En juillet 1976, la région de Pékin avait été éprouvée en effet par un séisme si violent qu'il fit plus de 600 000 morts. Et comme à l'époque de la Chine impériale, les Chinois ont vu dans ce cataclysme le présage d'un changement de dynastie. Atteint par une maladie rare, entouré d'infirmières et harcelé par sa femme, Jiang Qing, qui rêvait de lui succéder, Mao vivait dans une atmosphère de fin de règne et d'intrigue. Tandis que loin du pouvoir, des centaines de millions de Chinois vivaient eux dans la crainte de ce qui allait se passer après la disparition de celui qui, pendant 27 ans, avait régné sans partage sur le quart de l'humanité. Jusqu'à cette dépêche de l'agence Xin Nouvelle, le 9 septembre 1976.
C'est un message adressé au Parti communiste chinois, à l'armée et à tout le pays qui a annoncé la nouvelle. Le camarade Mao Tse-tung, le grand leader estimé et aimé de notre parti, de notre armée et de toutes les nationalités de notre peuple, est décédé à 0h10, le 9 septembre à Pékin, à la suite de l'aggravation de sa maladie et en dépit de tous les soins intensifs qui lui ont été prodigués par tous les moyens.
Bien-aimé et respecté président Mao, nous, la classe ouvrière, jurons de transformer notre chagrin en force. Nous réaliserons vos souhaits, nous étudierons le marxisme-léninisme et vos écrits. Tout le pays pleure notre grand commandant. Sous la direction du président Mao, le peuple chinois, longtemps opprimé et exploité, est enfin devenu maître chez lui. Sous la conduite du président Mao, le peuple chinois s'est dressé.
Jean-Luc Domenac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et spécialiste de la Chine, où vous vous trouviez d'ailleurs en septembre 1976, au moment de la mort de Mao. Est-ce que l'émotion que l'on vient d'entendre était feinte ou réelle? Est-ce que les Chinois ont sincèrement pleuré la mort de celui qui était quand même responsable de la mort justement de plusieurs millions d'entre eux?
Écoutez, trois phénomènes se sont additionnés. D'abord, il n'avait pas le choix, il fallait pleurer parce qu'autrement, c'était coup de pied derrière, hein, d'un certain côté, parce que c'était quand même le parti. Deuxièmement, il y avait une sorte de déflagration nerveuse. Ils ont pleuré par nervosité, quoi. C'était il y avait maintenant, les choses allaient devenir compliquées, tout allait changer. Et puis troisièmement, ils étaient effroyablement inquiets. Et c'est sur eux qu'ils pleuraient. Ils pleuraient sur eux parce qu'ils étaient pauvres, mal logés. À l'époque, il faut savoir que c'était 4 mètres carrés par personne et pas plus. Vous l'avez très bien dit, Patrice Gélinet, cette année 76, c'est dans une atmosphère de fin du monde. Tremblement de terre ici, éclipse de soleil là. On avait l'impression que les dieux étaient désormais contre le pays du milieu. Et donc, les gens avaient l'impression que c'était fini, que c'était quelque chose de terrible qui menaçait. C'est le contraire qui s'est passé. C'est allé beaucoup mieux ensuite.
Oui, mais alors, il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est que cette espèce d'émotion, elle a largement franchi les frontières. Je crois qu'au même moment, le président de la République française, Monsieur Giscard d'Estaing, qui est peu suspect d'avoir des sympathies pour la révolution culturelle chinoise, disait de Mao, c'est le phare de la pensée mondiale. C'est un mot qu'on entend plus volontiers dans la bouche d'un garde rouge que dans celle du président de la République.
Bah écoutez, c'est une vieille histoire des niaiseries, des naïvetés de l'Occident face aux chefs totalitaires. Hein. On veut pas croire à la vérité. À l'égard de Staline, on a été à la limite de dire bien les choses. De Gaulle de trouver Staline plutôt pas mal. Hein.
On le connaissait comme brutal aussi.
Oui, brutal. Ben, on n'avait pas. Vous avez raison sur ce point que on n'avait pas compris la brutalité qu'il y avait sous Mao Tse-tung, qui a été vraiment le responsable de la mort de 70 millions de personnes.
Oui, mais ça, on l'a su. Essentiellement après, c'est aussi...
Excusez-moi, quand je suis arrivé à Hong Kong, le tout début, fin août 1976, ensuite je suis allé à Canton et j'étais au moment, de la mort. La première chose que j'ai vue, moi, à Hong Kong, c'est un cadavre sur une plage. J'ai amené ma fille qui avait 3 ans, elle m'a dit « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Et je dis « C'est un cadavre ». C'était quelqu'un qui arrivait de Chine populaire, vous comprenez.
Alors cet aveuglement, cette émotion, elle est peut-être due aussi parce qu'en 1976, on pense moins aux responsables d'une politique désastreuse qu'à celui qui prenait le pouvoir en Chine 27 ans plus tôt, en octobre 1949.
En Chine, la retraite des nationalistes est générale. Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux armées communistes de Mao Tse-tung. La Chine tourne une page.
Le conseil du gouvernement du peuple chinois a décidé d'annoncer à tous les gouvernements du monde que nous sommes le seul gouvernement légal représentant tous les citoyens de la République populaire de Chine.
C'est une archive rare, tirée d'un excellent documentaire qui vient d'être diffusé sur Arte, la proclamation par Mao lui-même de la République populaire de Chine en 1949. On distingue souvent, Jean-Luc Domenac, le Mao de cette époque, considéré par certains comme un libérateur, du tyran qu'il est devenu après.
Bon, il était déjà un peu tyran, et même beaucoup, mais il était encore très libérateur, parce que les gens n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir pire que ce qu'ils avaient connu. Il faut se rendre compte que sous l'Empire, c'était pas drôle. Oui, comme régime. Que sous l'Empire, c'était pas drôle, mais que le Kuomintang avait vraiment gâché une quantité de choses, famine, guerre, etc., les Japonais. Et au moins, c'est un peu comme quand Pol Pot est arrivé à Phnom Penh, vous comprenez. Voilà, arrivaient les armées communistes qui payaient ce qu'elles achetaient, et puis des chefs qui étaient, suivant tout les témoignages vertueux, etc. C'était la vertu qui ensuite s'est révélée terrible. Les gens ne pouvaient pas imaginer que ça serait pire d'une part, et au début, c'était plutôt pas mal. Donc, effectivement, c'est vraiment quelqu'un en quoi les gens vraiment espèrent beaucoup, et c'est le fondateur d'une nouvelle dynastie. Mmh. Et la Chine tout entière aspire à vraiment l'arrivée de ce nouvel empereur. Mao, c'est le jeune empereur, le bel empereur.
Cela dit, c'est un empereur stalinien qui ne le cache pas. Il va même l'être au-delà. Après la déstalinisation en URSS, il va rester fidèle à Staline et se comporter à bien des égards comme lui.
Nos intellectuels français avoir compris les choses aussi clairement que vous venez de le dire. Parce que, ce qu'en fait, vous venez de dire tout naturellement, ce qui est la parfaite vérité, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas été différents, ils ont été pires que les Russes, si vous voulez, que les Soviétiques. Alors que tous nos maoïstes croyaient que la Chine, c'était différent, qu'elle critiquait vraiment sur une base fondamentale. Bon, ce qui s'est passé, c'est en fait la constitution d'un extrême stalinisme, d'un stalinisme du bout du monde, qui est rural, brutal, mais au fond, c'était simplement Staline-Empire.
Et très original, en se lançant dans une expérience totalement inédite et qui va s'avérer être désastreuse, c'est en 1958, ce qu'on appelait le grand bond en avant. Ça a été un désastre abominable qui a fait, dit-on, plus de 40 millions de morts, c'est-à-dire plus de la moitié, au fond, des morts sous le régime maoïste. Rappelez-nous, Jean-Luc Domenac, ce qu'était ce grand bond en avant.
Ah ben, tout d'un coup, Mao, ça l'a gratté, quoi. C'est quelque chose. C'est sorti vraiment tout armé de son cerveau ailé, comme on disait sommaire, hein, véritablement. Cette idée que, ben voilà, on va s'occuper un peu d'économie. Les Russes sont vraiment nuls. On va faire les choses 10 fois plus vite qu'eux. On va rattraper la Grande-Bretagne en 3 ans et les États-Unis en 10 ans, à condition qu'évidemment, tout le monde travaille le plus près possible de 24 heures sur 24. Mmh. Et donc, la Chine tout entière a été mobilisée, les gens l'ont cru. Il y a eu, par malchance, si je puis dire, un bel été, donc effectivement, il y a eu pas mal de grains. Et voilà, Tipak, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à y croire. Si bien que Mao Tse-tung, recevant Khrouchtchev, lui dit, moi, de toute façon, notre problème à nous, c'est que maintenant, on va avoir trop de céréales. Quelques mois après, les premières famines se produisaient, les premières épidémies, la Chine commençait à mourir.
Pour être précis aussi, il faut rappeler, il y a eu ce slogan de l'époque, il faut marcher sur sur ses deux jambes. Ça voulait dire qu'il fallait développer en même temps l'agriculture, qui était la force de la Chine, et une industrie qui était inexistante. Alors on a créé des espèces d'aciéries dans les communes populaires, et c'était un effort trop grand. Et là, il y a eu une famine effroyable, qui est dénoncée d'ailleurs très vite par la direction du parti, qui se met à critiquer Mao.
Oui, d'abord pour donner quand même un exemple, parce que c'était vraiment des famines comme on ne sait plus ce que c'est en Occident. Moi, quelqu'un m'a raconté qu'il était en train, il achète l'équivalent chinois d'un sandwich, il envoie sortir un ongle d'homme. Hein, il faut voir ce que c'est, quoi. Vous pouviez manger des sandwichs à la viande humaine.
Il y a eu du cannibalisme.
Il y a eu du cannibalisme. Ouais. Les familles paysannes s'échangeaient les bébés. Chacun mangeait le bébé de l'autre. C'est des histoires, mais effroyables, véritablement, une régression absolument épouvantable. On a connu des districts où sur 500 000 habitants, il en mourait 300 000. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Et de fait, dès le début, le parti était très bien organisé, les dirigeants sont au courant. Mao Tse-Tung reçoit même la visite de vieux paysans de son pays natal qui lui disent « Président, ça va plus, les gens crèvent comme des mouches. » Il prend des airs, etc. Au bout de deux ans, il ne peut plus vraiment faire comme si rien ne se passait. Et il s'est mis lui-même prudemment un petit peu sur la Ventin, et il a laissé les autres faire le boulot. Et dès que les autres, 62, 63, 64, avaient relevé un peu l'économie, alors Mao est revenu et a relancé la lutte des classes.
Oui, parce que quand vous dites les autres, c'est essentiellement le président de la République, Liu Shaoqi, qui le critique. Voilà. Il se met à l'écart vraiment pendant 3-4 ans. Mm. On n'entend plus parler de lui, il fait de la représentation, il s'occupe de ses favorites, ça on le saura plus tard, il avait vraiment une vie assez étonnante. Et puis alors il prépare surtout son retour en 1966 en déclenchant cette année-là ce qu'on a appelé curieusement la révolution culturelle.
Pékin, heure de la grande révolution culturelle prolétarienne. La décision en 16 points du comité central du Parti communiste chinois dit dans son article 3 « Il faut mobiliser sans réserve les masses ». Le mot d'ordre a été propagé de telle manière que le déferlement des jeunes gardes rouges sur la capitale finira par atteindre les dimensions du cataclysme de l'apprenti sorcier. Pour ce nouveau combat, une vie dans toute la Chine par des millions de bras, un petit livre rouge contenant la pensée de Mao. Pendant plus de 6 heures, hors d'atteinte sur son rocher élevé de la place Tiananmen, le président Mao verra battre à ses pieds les flots qu'il a déchaînés.
C'était une archive Patel 1966, le début de la révolution culturelle, en fait le moyen pour Mao, qui l'a déclenché, de reconquérir le pouvoir en s'appuyant, ça c'est une révolution tout à fait originale, Jean-Luc Domenac, on l'a entendu, sur des jeunes, sur ces gardes rouges d'abord.
Ben oui, c'est ça l'originalité de la révolution culturelle. C'est
des jeunes, même des enfants. Hein.
D'abord, ça commence par quelque chose qui est pas original du tout, c'est l'armée et la sécurité. Hein, quand même, avec que dirigent Lin Biao et Kang Sheng, qui sont ses deux adjoints. Ensuite, on se saisit de la jeunesse. Et ma foi, ça nous rappelle un peu que, comme me disait un de mes vieux maîtres, il y a qu'une seule chose pire que les vieux, ce sont les jeunes. Et toute l'histoire du XXe siècle est finalement scandée par des mouvements de masse, disons, de jeunes déchaînés. On comprend pas les Khmers rouges, Hitler, sans cela.
Mais les Khmers, il faut le rappeler au fond. Il faut rappeler que les Khmers rouges, c'était aussi un mouvement qui a été encouragé, aidé par Mao Tse-tung.
Absolument.
Ce qu'il a fait en Chine, s'est produit aussi par sa faute
d'ailleurs. Et d'ailleurs, Pol Pot était en décembre 1966 à Shanghai. Les Khmers rouges, ce sont des jeunes paysans qui ont été absolument dynamisés, fanatisés, etc. Alors voilà, c'est la jeunesse, une jeunesse quasi hitlérienne, il faut dire les choses. Les jeunes ont cassé, les jeunes ont tué, les jeunes ont mimé ce qu'il y avait de pire dans le régime. Ils créaient leur propre camp de travail forcé, où ils envoyaient les vieux artistes, des vieux poètes. Et moi, à Hong Kong, 10 ans plus tard, je voyais arriver des peintres aux doigts cassés, des peintres aux yeux crevés, pardon, des pianistes aux doigts cassés. Enfin, c'est toute la culture chinoise a été véritablement bousillée.
Jean-Luc Domenac, justement, pourquoi l'appelle-t-on la révolution culturelle?
Parce qu'elle a commencé
à tout ce qui représentait la culture.
Parce qu'elle a commencé par vouloir rétablir la ligne juste dans le domaine de la culture, c'est-à-dire mettre fin à toute variance, à toute diversité, à toute liberté, parce qu'elle a commencé par réprimer la culture. Voilà.
Et alors, qui s'en prend à la direction du parti, il faut tirer sur les états-majors, disait Mao. En fait, c'est une manière d'éliminer le parti. Ça, c'est curieux, cette révolution faite par celui qui a amené le communisme au pouvoir, contre l'État, contre les dirigeants communistes accusés de capitalisme, de révisionnisme.
Vous avez raison, Patrice Gélinas, mais c'est pas si différent de ce que faisait Staline. Hein. Staline a décapité X fois le Parti communiste soviétique, et quant au Parti polonais, une fois, il a carrément assassiné tous ses dirigeants. Hein. Non, c'est véritablement Mao qui purge, il change les gens dans le parti. La vraie différence, et ça c'est plutôt pas mal, c'est qu'il les a pas tous tués. Il n'en a tué, on va dire, que 1 sur 5 ou 6, ce qui fait qu'ensuite, quand Mao est mort, et ben ils sont tous revenus, si vous voulez. Et ça, c'est là ce qu'on peut retenir, je veux dire, en faveur de Mao. Il s'est contenté de les torturer, s'est contenté de les écraser, et il ne les a pas systématiquement assassinés.
Alors, parmi, justement, ces victimes, Liu Shaoqi, qui a été emprisonné, qui mourra en prison dans des circonstances peu connues en 1971, et puis il y a aussi Deng Xiaoping, quand vous dites ce qu'il a épargné, qui est victime, qui était secrétaire général du parti, qui est victime de la révolution culturelle et qui reviendra un peu plus tard.
Lui, Deng Xiaoping, Mao l'aimait bien. Liu Shaoqi, les gens n'aimaient pas Liu Shaoqi. Il faut que je vous raconte une histoire. Liu Shaoqi était détesté parce qu'il était beaucoup plus vertueux que tout le monde. Il faisait la leçon aux autres. Et tous ces gens-là habitaient ensemble et les enfants de Liu Shaoqi embêtaient tout le monde, quoi. Et alors, il y avait vraiment un énervement contre Liu Shaoqi, le plus vertueux, même pas capable de s'occuper de ses gosses. Deng Xiaoping, au contraire, Mao l'aimait beaucoup. À la pire époque du Jiangxi, Deng Xiaoping vraiment avait appuyé Mao parce qu'il avait compris. Il aimait pas Mao. Mais il avait compris que celui-là, c'était un dur et qu'il allait gagner. Et donc, Mao l'a épargné.
Autre épargné, le premier ministre depuis 49, qui le restera jusqu'à sa mort, c'est Chou Enlai, qui reste fidèle à Mao, qui n'en pense pas moins, mais qui suit Mao. Pourquoi? Par l'acheter?
D'abord, Chou Enlai, je vais vous dire, dans ces cas-là, il y a une première chose. Il faut survivre. Hein, et Chou Enlai survit, comme il peut. Deuxièmement, sauver ce qui peut l'être. Des vies, des moyens de pouvoir travailler ensuite. Et troisièmement, garder un peu d'influence sur le patron. Eh ben, c'est ce que Chou Enlai a fait.
Et puis alors, contre des jeunes, des complètement fanatisés, abrutis par les slogans de la pensée du président Mao, exprimé dans ce petit livre rouge qui a été édité à des millions, même des dizaines de millions d'exemplaires, et pratiquant ces jeunes une langue de bois insensée, écoutez ce garde rouge, prononçant 6 fois le nom de Mao en moins de 40 secondes, j'ai calculé, c'était au micro de Jean-Pierre Alcabache.
Sans le président Mao et le Parti communiste, nous n'avons pas d'aujourd'hui.
Vous comprenez très bien que lorsqu'on interroge des jeunes chinois, oui, ils disent à peu près tous la même chose, qu'ils sont tous très contents du président et du parti communiste.
Oui.
Est-ce que c'est de la propagande?
Non, c'est pas la propagande, c'est la vérité.
Vous répétez toujours tous les mêmes choses?
C'est pas répéter, on aime le président Mao, c'est la vérité, c'est le président Mao qui nous a sauvés.
À quoi vous croyez-vous?
Je crois le marxisme-léninisme, j'aime le président Mao. Je crois que seul le président Mao qui veut nous donner le bonheur.
Mais il n'est pas éternel.
Il a développé le marxiste-léniniste et nous avons la pensée du président Mao.
La force directrice de notre entreprise est le Parti communiste chinois. Nous devons organiser les masses populaires pour renverser les réactionnaires chinois.
Chanson de l'époque de la révolution culturelle, vous connaissez peut-être les paroles, Jean-Luc Domenac, les poissons ne peuvent vivre sans eau, ni les masses révolutionnaires vivre sans le parti communiste, la pensée de Mao Tse-Tung est le soleil qui jamais ne se couche, faire la révolution dépend de Mao Tse-Tung. On n'a jamais, à mon avis, peut-être, enfin j'en sais rien, peut-être à l'époque des jeunesses hitlériennes, abruti une génération entière à ce point quand même.
C'est vrai à 70%. Pendant ce temps-là, il y en avait un qui en profitait pour partir au Tibet pour se balader, qui faisait des petits camps dans les prairies de Mongolie intérieure. Et moi, un de mes amis, lui, était carrément profité du désordre pour s'installer dans les combles de la bibliothèque de Pékin, où il a lu tous les ouvrages pornographiques qui étaient fermés et toute la littérature qui était fermée. Donc, faut pas non plus totalement exagérer. Il y a toujours des petits malins qui s'en tirent.
Hein. Alors, ces slogans, cette pensée du président Mao rabâchée à tout moment, on peut la comprendre dans un pays où la liberté d'expression expression n'appartient à l'époque qu'aux gardes rouges, mais alors dans des pays où elle existe vraiment, on a du mal à comprendre, Jean-Luc Domenac, comment est-ce que cette révolution culturelle, la pensée du président Mao, le petit livre rouge, ait pu fasciner des intellectuels français, par exemple.
Ben oui, ça reste une énigme. Il y avait Hitler, Staline également fanatisé, une quantité de gens extrêmement forts, les normaliens, les cagneux, tout cela, vraiment ont été nuls à cette époque-là. Moi, je crois que l'explication que je la plus juste, c'est qu'au même moment, en Occident, se développait une double crise, la crise des idéologies révolutionnaires, le Parti communiste soviétique décevait, et la crise de l'Église catholique, que les jeunes communistes exigeants d'un côté, les jeunes catholiques sont allés vers la lumière de Mao Tse-tung, un peu comme des papillons.
Un Mao Tse-tung qui, grâce à la révolution culturelle, reconquiert le pouvoir, et puis finit par siffler la fin de la partie, la fin de la récréation en 1969, à l'occasion du dernier discours qu'il a prononcé en public en 1969.
J'espère que notre 9e congrès sera un grand congrès d'unité et de victoire, et nous remporterons encore d'autres victoires.
Alors c'était Mao en 69 au 9e congrès du Parti communiste chinois. Il ne dit pas que la révolution culturelle est finie, mais en fait c'est à ce moment-là que, n'ayant plus besoin des gardes rouges, il les envoie à la campagne. Il est au fait de sa puissance. Et en même temps, on le voit progressivement, nous sommes là à l'époque, 7 ans avant sa mort, il va s'éloigner petit à petit du pouvoir.
Il y a un événement qui va être très important, c'est la trahison de Lin Biao. Lin Biao, il avait
nommé comme successeur.
Il avait fait de Lin Biao son successeur. Ça a donné des idées à Lin Biao, qui a trouvé quand même que Mao Tse-tung ne se pressait pas de s'en aller, et a tout petit peu eu l'idée de pousser un petit peu dans ce sens-là. Et Mao a dû donc prendre les choses en main, et si Lin Biao n'avait pas fui, probablement, Mao l'aurait fait arrêter, disons. Et alors là, disons, pour beaucoup de gens, en l'étranger comme en Chine, c'est le début de la fin qui commence. Et les dernières années vont être des années où un Mao malade, retiré au bout d'une piscine...
Maladie peu connue, rare,
une forme de
sclérose des nerfs.
Absolument, et près d'une piscine, parce qu'il adorait nager, il donnait à la natation de grandes vertus. C'est pour survivre, il fallait nager et consommer des dames, disons.
Quelque chose qu'on a peu connu. Ouais, il avait la réputation d'être un vertueux entièrement consacré à la révolution. Eh bien, pas du tout, en réalité. C'était une espèce de satrape. Il vivait comme tel.
Oui, non. Il préférait vraiment les femmes à tout le reste, hein. Il mangeait pas tant que ça et il buvait pas tant que ça. Ouais. Non. C'était vraiment les femmes. Hein, vraiment. Les femmes, la poésie. Les femmes, beaucoup.
Dans la sienne, qui d'ailleurs, à la fin, alors, il y a une atmosphère où c'est déchiré entre eux. Il y a sa femme, Changqing, qui, l'ancienne actrice qui est persuadée qui est derrière le corps de Mao quasiment mourant, dont on dit même d'ailleurs qu'elle l'a poussé à mourir parce qu'elle convoite sa succession. Il y a la bande des quatre. Il y a vraiment une atmosphère de fin de règne quand il meurt en 1976.
Juste un mot sur Tangxin. Je crois qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle était démoniaque, mais très forte. Très vite, bon bref, ils n'ont plus dormi ensemble. Très vite aussi, ils n'ont plus mangé ensemble. Mais quand même, Mao avait pour elle une certaine estime et admiration. Il n'est pas du tout impensable que Mao ait voulu lui laisser la succession.
Jusqu'à sa mort, donc le 9 septembre 1976, et 9 jours plus tard, c'était ses obsèques sur la place Tiananmen. Écoutez cette archive d'une radio qui, à l'époque, n'avait pas les moyens techniques d'être bien entendue par tout le monde.
Devant la dépouille du président Mao, beaucoup de gens ont levé le poing de voix en prêtant serment solennellement. Nous sommes déterminés à faire de notre douleur une force à ne pas décevoir le président Mao qui nous a donné tant d'enseignements et à avancer toujours courageusement le long de la voie révolutionnaire frayée par le président Mao.
Nous sommes décidés à suivre la voie révolutionnaire choisie par le président Mao. Voilà ce qu'on entendait le jour des obsèques de Mao Tse-tung, le 18 septembre 76. C'est une promesse qui n'a pas été tenue très longtemps, Jean-Luc Dominique.
Vous savez, quand les dictateurs totalitaires s'en vont, il est rare que le changement ne soit pas brutal. Hein, c'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Et c'est aussi ce que l'immense majorité de la population chinoise souhaitait. Simplement, la grande originalité, vous en avez déjà parlé, et ce serait intéressant d'en reparler aussi, c'est Deng Xiaoping qui a pris la suite, a réussi à changer, à faire l'autre dans le même, c'est-à-dire à changer tout en ne changeant pas l'essentiel. C'est ça la grande originalité. Et à répondre finalement aux aspirations de la population tout en répondant aux aspirations du Parti communiste. Parce que maintenant, ce qui est en Chine, la Chine aujourd'hui, c'est le parti plus un meilleur niveau de vie.
Et c'est encore Mao. Quand même, imaginons aujourd'hui, je ne sais pas moi, la dépouille de Hitler à Berlin, devant laquelle défileraient des gens, la photo de Staline sur la place rouge de Moscou. Là, à Pékin, il y a le mausolée de Mao, du corps embaumé de Mao, il y a la photo de Mao sur la place Tiananmen, devant la cité interdite.
Oui. Les Français aiment bien Charlemagne, hein. C'est une forme de Charlemagne. C'est le fondateur de la dynastie, c'est un type qui était un grand homme, les gens, finalement, ils l'apprécient d'autant plus qu'il n'est plus là.
Oui. On a l'impression, d'une certaine manière aussi, que c'était le successeur des empereurs chinois.
Voilà.
Jean-Luc Domenech.
Ça aurait été le fondateur d'une nouvelle dynastie. Simplement, cette dynastie est devenue une dynastie industrielle et financière.
Qu'est-ce que les Chinois, vous qui habitez en Chine désormais, qu'est-ce que les Chinois pensent de Mao aujourd'hui ?
En gros, ce que je vous disais, c'est-à-dire, c'était un grand homme, mais bon, il est encore mieux parti que là. Mais d'autre part, deuxièmement, ils aiment bien le faire valoir un petit peu parce qu'ils sont furieux contre la corruption des dirigeants actuels. Et ils se racontent que Mao, lui, était un homme pur.
Est-ce qu'il y a des cérémonies prévues, justement, pour le 30e anniversaire?
Non, parce que, je vais vous dire, ça serait quand même un peu délicat. Mao a quand même fait beaucoup de bêtises, et les dirigeants chinois d'aujourd'hui n'en sont pas si fiers que ça.
Ouais. Ils disent toujours, c'est pas de sa faute.
Oui, ils disent 7-3. Ils disent 7-3. Bon pour 7 à 70%, moins bon à 30.
Merci Jean-Luc Domenech. Pour en savoir plus, je recommande un livre de référence en deux volumes, La Chine depuis 1949, que vous avez écrit avec Philippe Richer aux éditions Point Seuil. Et vous êtes également l'auteur de Où va la Chine, édité plus récemment en 2002 chez Fayard. À lire également Mao de Jun Chang et John Hallyday, J-O-N Hallyday, récemment publié chez Gallimard. C'est un livre formidable dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment. Et puis La Longue Marche de Sun Chuyun qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous avez pu entendre des extraits de Mao, une histoire chinoise, un excellent documentaire inédit de Philippe Short et Adrien de Mabène qui vient d'être diffusé sur Arte et qui sortira en DVD aux éditions Arte Vidéo le 19 septembre prochain. Vraiment, il faut se procurer ce DVD, Mao, une histoire chinoise. Et puis vous avez entendu aussi deux archives pâtées de 1949 et 1966 disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. À voir enfin ce soir sur la chaîne Histoire à 20h50, Mao, le dernier empereur, un documentaire de Jeremy Bennett produit par la BBC. Toutes ces références très nombreuses sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Sophie Moreno, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Anne Kobilac, notre réalisatrice.